Fidèle auditeur au programme du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans l'émission Espace Femmes du Studio Kalangu. Espace Femmes est une émission qui traite des questions qui concernent les femmes et diffusée à travers les 8 régions du Niger sur 52 radios partenaires, 7 télévisions, dont 6 à Niamey et 1 à Zender. Les femmes face à l'infertilité au Niger, quelle solution ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, on estime dans le monde environ 48 millions de couples et 186 millions de personnes qui sont touchées par l'infertilité. En Afrique, les taux d'infertilité sont de plus en plus élevés. Ils varient entre 15 et 30%. Au Niger, le problème de l'infertilité est avant tout individuel. La femme qui se sent seule concernée par ce problème est la première à consulter. Selon le professeur Madi Nayama, en 2019, à l'occasion d'un atelier, il a indiqué que la maternité Isaac Gazobi de Niamey, une maternité de référence, 9% de femmes consultent pour les problèmes d'infertilité. Cependant, les causes de l'infertilité sont nombreuses, selon les spécialistes. Et la plus fréquente, c'est quand les trompes sont bouchées, c'est en raison d'infections sexuellement transmissibles maltraitées, d'avortements pratiqués hors milieu médical ou d'accouchements qui se font sans assistance médicale. D'autres facteurs aussi sont à la base de l'infertilité chez la femme, c'est le problème de la prolactine. Qu'est-ce que c'est que la prolactine? En quoi peut-elle impacter la fertilité chez la femme? Y a-t-il d'autres facteurs qui sont à la base de l'infertilité chez la femme? Existe-t-il des traitements contre l'infertilité? Pourquoi les traitements contre l'infertilité sont rares en Afrique? Pour trouver réponse à ces questions et bien d'autres, nous avons accueilli dans ce studio une gynécologue, Madame Maimouna Yahya. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons aussi un sociologue, Hamadou Banya Ibrahim. Bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, je suis Samira Wafi. Merci à vous, chers invités. Nous commençons avec vous, Madame Maimouna. Dites-moi, quand est-ce qu'on parle d'infertilité?
Bon, en fait, oui, on parle d'infertilité. Là, on voit que, et vraiment, pour la prise en charge, ça devient de plus en plus fréquent, donc en pratique gynécologique, puisque environ 10 à 20% de couples consultent pour infertilité. Donc, vous voyez là, du coup, ça devient un problème fréquent en pratique gynécologique médicale. Donc, le plus souvent, et l'infertilité, en fait, c'est quand il y a au moins une année au sein d'un couple, d'accord, une année de rapport sexuel régulier, au moins une année, sans contraception. Donc là, il faut le préciser aussi. Et qu'on n'obtienne pas une grossesse. Donc, et là, par rythme de rapport sexuel aussi, nous devons mettre l'accent là-dessus, puisqu'il faut un rythme d'au moins 3 rapports sexuels par semaine, donc la fréquence. Donc, c'est quand ces contextes sont réunis et qu'il y a l'absence de survenue d'une grossesse, c'est en ce moment qu'on parle d'infertilité.
Alors, madame, quels sont réellement les causes de l'infertilité?
Bon, en fait, les causes de l'infertilité, donc nous devrons savoir que et dans un tiers des cas, ça concerne la femme, dans un autre tiers des cas, l'homme, et dans un autre tiers des cas, les deux. Et dans 80 à 90% des cas quand même, une étiologie est retrouvée. Donc le plus souvent, il y a diverses étiologies. Mais c'est surtout sur l'IST, l'infection sexuellement transmissible, qui est dit à un germe communément appelé chlamydia trachomatis. C'est lui qui crée des salpingites, donc une poussée aiguë. Et là, ça donne un problème au niveau des trompes, qu'on appelle scientifiquement l'obstruction tubaire. Donc le plus souvent, si on prend... Et 80% des cas de causes d'infertilité tubaire, c'est lié à ce problème au niveau de trompe, l'obstruction tubaire.
Est-ce qu'il y a des symptômes?
Oui,
Il y a des symptômes, puisque avant d'aboutir à l'obstruction tubaire, dans un premier temps, c'est l'infection sexuellement transmissible qui va se manifester par une salpingite. Donc, qui dit salpingite dit douleur, douleur pelvienne. Et communément, c'est ça que les femmes viennent pour consulter pour algie pelvienne. Donc, il y
Alors,
a cette douleur qui est au premier plan. Et la poussée de salpingite, en fait, l'obstruction tubaire n'est qu'une conséquence de cette poussée d'infection.
et comment est-ce que elle est diagnostiquée sur l'homme ou sur la femme?
C'est comme je vous l'ai dit, le plus souvent, le motif de consultation, en fait, c'est la douleur. Le plus souvent, c'est la douleur qui amène surtout la femme à consulter. Et surtout dans nos contextes, les femmes, elles ne viennent pas pour désir de grossesse. Une femme ne va jamais t'avouer qu'elle vienne en consultation pour désir de grossesse. Donc, le plus souvent, c'est la douleur qui les amène. Et dans notre société, c'est les femmes. Rarement, on voit l'homme suivre la femme pour une consultation. Le plus souvent, c'est les femmes, elles vont venir pour douleur. Et quand on va examiner, on va constater qu'il y a la douleur, qu'il y a des pertes. Hein? Et en ce moment-là, on va essayer de pousser avec d'autres investigations. Sinon, quand même, dans la majorité des cas, le diagnostic, il est clinique. Oui, voilà.
D'autres disent que les maladies sexuellement transmissibles mal soignées peuvent être à la base d'une infertilité. Qu'en dites-vous?
Oui, tout à fait. C'est de ça justement que je parlais, la salpingite. En fait, la salpingite, là, c'est une infection qui est due à un germe, comme je le disais tantôt, Chlamydia trachomatis, et ça se transmet sexuellement. Donc, c'est une IST. Donc, tout à fait. Et j'ai aussi rappelé que dans la majorité des cas, 80% des obstructions tubaires causent de l'infertilité au niveau des trompes sont dus à ces IST.
Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Monsieur Ibrahim. Je rappelle que vous êtes sociologue. Dites-moi, est-ce qu'on peut parler de l'infertilité dans la société?
Merci madame de m'avoir invité pour m'exprimer sur un sujet aussi préoccupant qui a des conséquences sur notre société. L'infertilité en tant que telle, c'est une difficulté de concevoir. Mais cette difficulté de concevoir est perçue de manière différente selon les sociétés ou selon les écoles. Ici en Afrique, elle est perçue comme une malédiction. Et la plupart du temps, c'est la femme qui est mise en cause. Alors que d'un point de vue scientifique, c'est une maladie comme les autres et qu'on pourrait guérir. Mais malheureusement, la perception que les gens, les Africains ici dans nos sociétés rurales, que les gens ont de l'infertilité est telle que elle relève d'une malédiction ou bien elle se présente comme étant une insuffisance biologique, ou bien elle peut aussi être considérée comme étant une femme qui traîne derrière elle un mauvais sort. Donc, les perceptions sont différentes à quelque niveau que ce soit.
Alors, est-ce que généralement, ici dans la société nigérienne, les gens arrivent à parler de l'infertilité ouvertement pour pouvoir trouver des solutions?
Oui, malheureusement, l'infertilité est une maladie qui est perçue, perçue comme un sujet tabou dans nos sociétés. Donc, au regard de son caractère tabou, les gens qui sont concernés par cette infertilité n'arrivent pas à s'exprimer, à partager avec leur entourage de cette difficulté, de cette maladie. Donc, il y a des gens qui ont même des difficultés à aller dans les centres de santé pour tenter de trouver une solution. Donc, ce caractère fait que et la personne n'arrive pas à procréer et psychologiquement elle a des difficultés. Parce que quand vous avez des soucis, quand vous avez des problèmes réels qui vous concernent et que vous n'arrivez pas à partager, vous ne pouvez pas avoir des solutions. Parce que même les conseils, ou les conseils qui relèvent des réconforts peuvent être des solutions. Donc vous ne partagez pas parce que vous considérez que si les gens sont mis au courant de cette maladie, ça vous réduit en tant qu'être social, entre parenthèses.
Merci beaucoup. Avant de continuer, écoutons la réaction de quelques femmes que nous avons rencontrées sur la question.
Je suis mariée depuis 2014. Jusque-là, je n'ai pas eu d'enfant. Ma vie, je peux dire que ça va. Sinon, ce n'est pas du tout facile à vivre ces problèmes d'infertilité. Pendant les 7 ans de mariage, j'ai fait 2 fausses couches. Donc, je peux dire que je ne perds pas l'espoir que ça va venir, Inch'Allah. Il y a trop de conflits entre la femme infertile et sa belle-femme. Mais je dirais, alhamdoulilah, puisque moi, ma belle-femme, en tout cas à ma présence, ils ne m'ont jamais critiqué ou traité de femme infertile. Et je suis très contente pour cela. Parce que je vois des amis qui vivent l'enfer dans leur foyer à cause de ce problème. Ma situation actuelle, en tout cas avant, je pleurais quand je vois mes menstrues. Grâce à mon adorable mari, à chaque fois il me console en me disant tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui veut et qui donne à celui qu'il veut. Il me disait de ne pas oublier que Dieu existe et que je suis croyante et que Dieu ne nous a pas oubliés.
J'ai 34 ans, j'ai 14 ans de mariage et je n'ai jamais eu d'enfant, même pas une fausse couche. J'ai suivi des soins et des examens gynécologiques et même les traditionnels. Jusqu'à présent, j'attends de voir ce que le bon Dieu va faire. Des fois, quand je pense que je n'ai pas d'enfant, toute ma joie s'écoule. Je sens comme si je suis la seule femme à ne pas avoir d'enfant dans la vie. Je garde toujours l'espoir. Peut-être qu'un jour, Dieu accomplira nos vœux. Qu'Allah nous accorde cette joie-là, puisque avoir un enfant, c'est une grande joie de la vie. Des fois, la famille de ton époux le pousse à prendre une deuxième épouse.
En 2007, j'ai réalisé le film documentaire L'arbre sans fruits, qui est un récit de vie croisée entre le mien et celui de ma mère. Ma mère qui est morte en couche et moi, femme mariée qui n'arrivait pas à donner la vie. Donc, le film pose les questionnements de comment être femme sans être mère au Niger. Et quand on parle de ça, les femmes sont confrontées au regard social, elles sont confrontées à l'approbation, elles sont confrontées à énormément de difficultés, que ce soit au niveau de leur foyer ou au niveau de la société, qui les regardent comme des femmes qui ne sont pas complètes. Et souvent, c'est une situation qui amène les femmes à perdre l'équilibre ou qui perdent même une certaine confiance en elles parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas vraiment des femmes complètes. Et tout le regard qui se pose sur elles, surtout dans une société là où les questions de devoirs et d'honneur occupent une place de choix, et dans un pays aussi comme le Niger là où la natalité, la femme a en moyenne 7,5 enfants pour femme, n'est pas arrivée à être capable de donner la vie, c'est assimilé à un échec quant à ses devoirs auxquels nous soumet la société et notre genre aussi.
Retour au studio, Monsieur Ibrahim. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter?
Oui, ma réaction, vraiment, c'est un témoignage poignant que la première femme vient de faire. Parce qu'elle, à un moment donné, elle n'arrivait pas à procréer. Et heureusement, elle avait eu le soutien de son mari. C'est pour vous dire qu'une femme, quand elle est dans cet état de fait, elle a besoin de beaucoup de soutien. Surtout le soutien de son mari et de sa belle famille. Parce qu'en Afrique, une femme, dès qu'elle se marie, elle n'est plus du domaine de sa famille biologique. Elle appartient à sa belle famille. Et quand vous évoluez dans un milieu où vous avez besoin de protection et d'amour, si cette protection et cet amour-là n'y est pas, n'y sont pas, du moins, ça veut dire que ça peut avoir des répercussions sur votre manière, sur votre et ça peut avoir des répercussions sur votre personnalité. Donc cette femme, elle a eu la chance d'avoir un bon mari qui a pu la comprendre et qui a dû la soutenir dans ses moments de peine. Alors que dans certains milieux, peut-être que parce que cette femme, je l'ai écoutée, elle est en train de s'exprimer en français, peut-être que c'est un couple qui a un certain niveau qui puisse leur permettre d'appréhender de manière ou de concevoir positivement
la situation.
Contrairement à une femme, à un ménage rural, issu d'un milieu rural, qui autour duquel tourne toutes ces considérations sociales qui relèvent deux fois des côtés mystérieux. Vous voyez, ce n'est pas la même manière. Parce que dans certaines zones, la femme qui n'arrive pas à procréer est considérée comme une femme marginalisée. Et donc, elle est affublée. Affublée par des noms ridicules, des sobriquets, elle est traitée de tous les noms d'oiseaux. Elle n'arrive pas à s'exprimer parmi les siennes. Elle a des difficultés même à sortir. Elle a des difficultés à entretenir des bons rapports avec les autres femmes de la société. De tout cela fait que la femme, elle est marginalisée. Et alors que dans cette situation, la femme a beaucoup plus besoin de soutien, de réconfort moral, de soutien de la part de sa belle famille, qui se trouve être comme sa propre famille, de la part de son mari. Donc, à l'entendre, elle a au moins eu la chance de ne pas être marginalisée. Mais vraiment, elle a quand même vécu ça dans sa chair. Elle a vécu ça dans sa chair. À un moment donné, elle disait que... donc, elle-même, elle était très découragée. Elle était très décontractée. Ni tété de soutien de son mari. Elle aurait dû avoir du mal à s'en sortir.
Exactement. Merci beaucoup. Docteur Memouna, comment se présente la situation actuellement? Est-ce qu'il y a des chiffres de l'infertilité? Est-ce qu'ils sont en hausse ou en baisse ici au Niger?
Et là, on dirait globalement que ce sont des chiffres qui sont en hausse. Puisque, comme je le disais, on estime à environ 20% de couples qui consultent pour infertilité. Donc, avant les années 2010, c'était autour de 10%. Et donc maintenant, on a un constat autour de 20% de couples qui consultent pour infertilité.
Tout à l'heure, vous nous disiez que la plupart du temps, c'est les femmes qui arrivent. Mais quand même, vous accueillez chaque jour des patients. Est-ce que c'est les femmes qui sont le plus touchées ou bien c'est les hommes?
Dans cette question, en fait, j'ai donné des chiffres. Dans un tiers des cas, ce sont les femmes. Un tiers des cas, les hommes. Et dans un autre tiers des cas, ça concerne les deux. Donc, en fait, si on prend autour de 30%, c'est les femmes. Et 30% les hommes. Et dans 30% des cas, c'est les deux. Donc, vraiment, vous voyez, c'est de façon identique. Que ça soit homme ou femme, le même problème qui a touché la femme peut aussi se répercuter au niveau de l'homme. Mais on a tendance dans la société à voir rien que la femme en matière d'infertilité. Mais là, si on revient sur le terrain, en réalité, c'est le même pourcentage.
Lorsque l'infertilité est détectée chez le patient, quel est le traitement que vous lui recommandez?
Bon, en fait, patience, ça dépend si c'est la femme ou bien si c'est l'homme. Comme je le disais tantôt, et ça peut concerner les deux. Et donc là, il faut rechercher l'étiologie, la cause, puisqu'il y a différentes causes. Mais la cause la plus fréquente, comme on a eu à l'évoquer, c'est surtout l'infection sexuellement transmissible. Donc, il faut corriger cette infection. Maintenant, quand il s'agit d'un problème hormonal, donc notamment, vous l'avez eu à dire dans votre compte-rendu, un problème d'hyperprolactinémie, donc il faut corriger aussi. Donc, en fait, là, le traitement, la prise en charge découle de l'étiologie, en fonction de chaque étiologie.
Merci. Je reviens vers vous, M. Ibrahim. Selon les appréhensions, l'infertilité de la femme est mal vue dans nos sociétés, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, alors que celle de l'homme peut passer inaperçue. Comment est-ce que cela s'explique-t-il?
Oui, cela s'explique par le fait que la femme, elle est considérée comme étant le noyau du ménage. La femme est le... Et dans le foyer, la femme a une place prépondérante par rapport à l'homme. Parce qu'on attend de la femme des enfants. On attend de la femme des enfants en oubliant que l'homme aussi pourrait être responsable. Il n'y a pas que la femme qui peut être infertile.
Mm-hmm.
L'homme aussi peut l'être. Mais cela est perçu parce que on considère qu'en Afrique, c'est la femme qui donne les enfants. C'est elle qui accouche.
Exactement.
Vous voyez? Peut-être que c'est lié à ça. En tout cas, à mon avis, ça ne pourrait qu'être lié à cet état de fait. Le fait que c'est la femme qui procrée et non l'homme.
Mm-hmm.
Hein? L'homme contribue à parce que c'est deux éléments, hein? C'est deux êtres qui se complètent.
Oui.
Donc l'homme a apporté quelque chose à apporter, mais les regards sont beaucoup plus retournés sur la femme qui va à la maternité ou bien qui accouche à la maison.
Mm-hmm.
Hein? Donc c'est pourquoi cela n'est pas très perçu chez les hommes. Et vous voyez, et d'après les statistiques, c'est vrai, nous n'avons pas des données fiables qui puissent montrer réellement ces taux-là, qui mm-hmm. puissent confirmer ou infirmer ces taux.
Mm-hmm.
Hein?
Mm-hmm.
Mais on peut dire que pour les femmes qui arrivent à fréquenter les centres de santé, donc d'après leurs résultats, vous avez vu, on a, à l'échelle continentale, on a dit que l'Afrique occupe la première place. Donc
oui.
L'Afrique bat le record en termes de continent qui détient les taux les plus importants. Parce qu'on dit qu'en Afrique, les taux tournent autour de 15 à 30%.
Mm-hmm.
Contrairement à certains continents comme l'Europe, mm-hmm. où le taux varie autour de 5%.
Mm-hmm.
Vous voyez?
Oui.
Donc on ne peut pas imputer la responsabilité seulement à la femme, mm-hmm. mais les gens doivent l'imputer à la fois à la femme et à l'homme. Tant que vous n'êtes pas mis au courant du conjoint, dans le couple du conjoint qui est à l'origine de cette infertilité, si, même si vous pensez que c'est la femme, ça veut dire que vous êtes en train de porter des prénotions. Des fois, ce ne sont même pas les femmes, hein, ce sont leurs maris qui sont infertiles. Ce sont leurs maris, mais la plupart des gens disent que la femme d'un tel n'accouche pas. Elle n'accouche pas. On n'accuse pas les hommes. Cela est fait à tort, mais il faut reconnaître aussi que c'est des valeurs socio-culturelles qui sont là et qui peuvent être dynamiques aussi avec la communication, avec la sensibilisation. Les gens peuvent renverser la tendance et faire comprendre à nos sociétés que la femme n'est pas la seule responsable.
Mmh.
La femme peut être infertile parce que tout simplement c'est son mari qui est le responsable et non elle.
Mmh.
Est-ce que vous voyez?
Oui.
Vice-versa aussi.
Merci beaucoup. Docteur Maimouna, beaucoup de femmes, surtout en milieu rural, pensent que le premier recours pour avoir un bébé, c'est les praticiens. Que pensez-vous de cette affirmation?
Oui, tout à fait. Ceci s'explique par le fait de la non ou faible fréquentation des structures sanitaires en milieu rural. Donc, on a ce problème. Les femmes ne sont pas sensibilisées à la fréquentation sanitaire. Donc, le plus souvent, quand il y a un problème, en dehors de l'infertilité, donc, vous voyez, c'est la consultation des tradis praticiens en milieu rural. Donc, ça, en fait, c'est carrément culturel. Je pense là, il faut plus de sensibilisation et aux femmes et à leurs maris pour qu'elles laissent fréquenter les structures sanitaires au besoin.
Alors, quels sont les risques que ça pourrait engendrer sur la santé de la femme?
La consultation au niveau des tradis praticiens.
Exactement.
Oui, tout à fait, puisque là, il faut voir, si on dit tradis praticien, le plus souvent, c'est la prise de décoction, Et quelquefois, on peut même donner des produits à introduire. Donc là, vous voyez, qui dit prise de décoction, là, il y a quand même un effet directement au niveau des reins. Il y a un impact au niveau rénal. Et pour les produits qu'ils introduisent, là, il y a le risque de cancer du col qui est là, qui est patent. Donc vraiment là, il faut vraiment une très bonne sensibilisation et pour qu'on puisse aller de l'avant.
Alors, selon une étude menée à la maternité Isaac Gazobi de Niamey du 1er juillet au 9 août 2009, l'infertilité féminine concerne surtout les femmes les plus vulnérables. Que doit-on faire pour faire face à cette situation?
Les femmes les plus vulnérables, je pense que c'est la tranche d'âge, non? La tranche d'âge, surtout au niveau des adolescentes. Ça, il faut mettre l'accent sur le mariage précoce. C'est ça, puisque le plus souvent, le problème de non-scolarisation de la jeune fille est induit le plus souvent à un mariage précoce. Et donc, qui dit mariage précoce, là, il y a des risques de contracter rapidement des IST. Et l'organisme aussi n'est pas mature, n'est pas préparé pour accueillir aussi une grossesse. Donc là, vous voyez, donc si vraiment on veut une bonne prévention, et au niveau de la tranche d'âge vulnérable 15-19 ans, c'est surtout la scolarisation de la jeune fille.
Merci beaucoup, docteur. Monsieur Ibrahim, je reviens vers vous. D'après ce que le docteur a dit, comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation quand on est confronté à de tels problèmes? Par exemple, pour les jeunes filles qui sont confrontées à l'infertilité à cause du mariage précoce, comment est-ce qu'on peut faire face à ce genre de choses?
Oui, moi je pense que même à ce niveau-là, tout tourne autour de la communication pour un changement de comportement. C'est-à-dire amener les gens à ne pas marier leurs enfants. En dessous de l'âge requis. Parce qu'il y a un âge requis pour cela. Et un âge sur lequel il a été convenu qu'on peut marier un enfant. Mais si la fille est mariée précocement, avec toute la fragilité biologique, cela peut avoir des impacts sur son état de santé. Moi, je pense qu'il faut renforcer la sensibilisation pour que les gens comprennent les risques que cela peut avoir sur l'état de santé des jeunes filles.
Exactement. Merci beaucoup. Suivons à présent le portrait de Hadjara Amadou.
Née en 1992 à Niamey, Hajar Amadou Sambo, connue sous le nom de Rita, commença les études primaires à l'âge de 6 ans. Après les écoles primaires, elle commença l'apprentissage de la couture. Et c'est à cette même occasion qu'elle rencontra son mari. En 6 ans de mariage, Rita n'est jamais tombée enceinte. Elle raconte.
Cela fait 6 ans que je suis mariée. Je ne suis jamais tombée enceinte. À plus forte raison, faire une fausse couche. Je n'ai jamais eu d'enfant.
Selon Rita, elle et son mari ont commencé à faire des traitements par la médecine moderne et traditionnelle.
J'ai fréquenté plusieurs centres de santé au pays. Je n'ai pas été à l'extérieur. J'ai même essayé la médecine traditionnelle. Chaque fois, on nous dit que c'est dû à une infection. On a fait les traitements. Maintenant, nous sommes bien portants, mon mari et moi, selon les médecins. On n'a aucune difficulté.
Malgré l'infertilité de Rita, elle n'a jamais eu de problème avec sa belle-famille.
Je n'ai pas eu de problème avec ma belle-famille, surtout ma belle-mère. C'est elle-même qui m'encourage avec ses propos. T'inquiète, ma fille, si l'argent peut donner un enfant, je ferai tout pour t'en procurer. Sois patiente, c'est la volonté de Dieu.
Mais de notre côté, la famille de Rita s'inquiète, comme nous l'affirme sa grande sœur Zainabou.
Pendant les congés, elle vient chercher les enfants. Elle passe tout son temps avec eux. Elle aime beaucoup les enfants. Nous qui sommes ses sœurs, nous sommes très inquiètes. Elle nous fait de la peine. Nous souhaitons voir ses enfants un beau jour.
Pour l'instant, Rita et son mari continuent les traitements tant par la médecine moderne que traditionnelle pour avoir des enfants.
Retour au studio, docteur Memouna. Dites-nous, Que pensez-vous du portrait de Rita que vous venez d'écouter?
Oui, tout à fait. À travers ce portrait, j'ai eu l'impression qu'elle parlait d'infections, qu'elles ont eu à consulter plusieurs centres, et on a parlé d'infections, et elle et le mari, et que maintenant ils sont bien portants, qu'il n'y a aucun problème. Justement, c'est à travers ça que j'aimerais un peu mettre l'accent, puisque le plus souvent, l'infertilité, c'est les séquelles des infections. C'est ça, c'est les séquelles. C'est ça le problème. Donc, quand il y a la poussée de la salpingite, on prend en charge. Et je vous donne un exemple. Par exemple, si une femme fait une première poussée de salpingite, elle a 13% de chance d'avoir une obstruction tubaire. Ça veut dire trompe bouchée. Maintenant, si au bout d'une deuxième poussée de salpingite, il y a 36% de risque d'obstruction tubaire. Au bout d'une troisième poussée, il y a jusqu'à 70% de risque d'obstruction tubaire. Donc, le plus souvent, c'est les séquelles des infections. C'est ça qui conduit à l'infertilité. Et donc là, à travers son reportage, je pense que ça doit être un problème d'obstruction tubaire.
Alors, et vous, Monsieur Ibrahim, que pensez-vous de ce que vous venez d'écouter?
Oui. Donc, je peux dire que de toutes les façons, cette femme, avec son mari, n'arrive pas à avoir des enfants. Et ils sont passés par les hôpitaux. Jusqu'ici, ils n'ont pas encore d'enfants. Mais la leçon qu'il faut tirer à ce niveau-là, malgré cela, la femme arrive à garder le cap. Parce qu'elle a le soutien de son mari, de sa belle famille, de sa mère biologique. Ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est que même en cas de difficulté, que la personne ait autour d'elle des gens qui sont là, qui sont prêts à la soutenir ou bien à le soutenir. Cette femme, malgré tout ce qu'elle est en train d'endurer, elle arrive à garder encore de l'espoir. Parce que on leur a dit, ils se sont traités et maintenant à l'hôpital, où on leur a fait comprendre qu'ils sont dans des bonnes prédispositions biologiques pour créer. Donc il n'y a pas plus réconfort que le réconfort autour de son milieu, familial, de son milieu amical, de ce genre de situation.
Merci beaucoup. Alors, je reviens vers vous, docteur Maïmouna. L'infertilité et stérilité sont deux mots qui reviennent chaque fois dans les discussions et l'on a tendance à les confondre. Mais quelle est la différence?
Bon, en fait, nous préférons le terme infertilité. Puisque si on parle de stérilité, le plus souvent, c'est une situation irréversible. Quand on parle de stérilité. Et là, quand on parle d'infertilité, on pense que dans un moment à l'autre, une bonne prise en charge de l'étiologie, on peut y remédier au problème. Donc, c'est ça, en fait, globalement, la différence. Et quand même, là, on préfère le terme d'infertilité. C'est moins frustrant et ça fait moins de stigmatisation.
Si je comprends, quand une femme souffre de stérilité, c'est irréversible, elle ne peut pas avoir d'enfant.
Oui, tout à fait. La stérilité, elle est irréversible.
Alors, est-ce que le traitement de l'infertilité, quant à lui, est-ce qu'on peut déjà avoir un traitement?
Oui, il y a bel et bien des traitements adaptés en fonction de la cause. Puisque le plus souvent, après avoir établi le diagnostic d'infertilité, c'est de rechercher la cause pour pouvoir mettre l'accent sur ce qui ne va pas et pouvoir agir.
Alors, et le traitement a une durée ou bien c'est agi?
Non, ça a une durée. Et ça dépend de l'étiologie. S'il s'agit d'un problème hormonal, comme un problème d'hyperprolactinémie, on essaye de corriger. Et tout va redevenir normal. Quand on a des taux quand même assez normaux, on peut avoir bel et bien la conception d'une grossesse. Ça dépend. Et d'autres étiologies aussi sont irréversibles, le traitement est long. D'où l'accent sur la prévention. prévenir ces IST.
Merci beaucoup, docteur. Je reviens vers vous, M. Ibrahim. Je rappelle que vous êtes sociologue. Les femmes stériles sont aussi stigmatisées au sein de leur belle famille, surtout la société. Avez-vous une suggestion? Comment ces dernières doivent accueillir ces femmes?
Oui, comme tout être humain, la femme a besoin d'être valorisée, d'être considérée et au sein de la société dans laquelle elle évolue. Donc, si elle présente un handicap comme la stérilité, je pense que de la rejeter en bloc, on doit au contraire la protéger, la réconforter. On doit l'accepter comme toutes les autres femmes de la société pour qu'elle aussi, elle sente la peine de vivre. Hein? Pour qu'elle sente... la peine de vivre en symbiose avec les siennes, pour qu'elles puissent aussi s'épanouir dans la société.
Merci beaucoup. Place maintenant à notre rubrique habituelle, l'OTI, qui sensibilise aujourd'hui sur la vigilance des mères dans les maisons, plutôt, en dépuis.
Affairage.
Ne bouge pas, hein.
Mais où est-ce qu'elle est? J'espère qu'elle n'est pas encore en train de dormir. Ramou!
Hey Allah, qui m'appelle comme ça à l'air là?
Chaba Ramou, que fais-tu dans la chambre pendant que ton enfant est à l'arrière de la cour tout seul? Il a manqué de peu de tomber dans le puits.
Quoi? Subhanallah! Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. Habibou, où est-il?
Arrête de crier, il est juste là.
Oui. Mon Dieu, Dieu merci. Oh.
Dieu seul sait ce qui allait se passer si je n'avais pas intervenu à temps. Je l'ai trouvé près du puits. Il tentait de rattraper son ballon qu'il a jeté par-dessus. Il aurait pu tomber dedans. Et vous n'en saurez rien.
Mon Dieu, j'allais perdre mon bébé. Et comment est-ce que j'allais expliquer cela à son père?
Pour cette fois-ci, ça va. Il a eu de la chance. Mais Ramou, je n'arrive pas à comprendre. Comment peux-tu laisser un petit enfant comme Habibou jouer tout seul dans la cour? Alors que tu sais que le puits n'est pas fermé. C'est un danger permanent que vous avez là.
Écoute ma copine, il était allongé juste à côté de moi, avant que le sommeil ne m'emporte. Nous faisons la sieste ensemble. D'ailleurs, si ce n'est pas aujourd'hui, il n'est jamais allé là-bas. Et en parlant du puits, chaque jour que Dieu fait, j'attire l'attention du boy de fermer le puits quand il finit d'arroser les plantes.
Je n'en disconviens pas. Mais tu dois redoubler de vigilance et t'occuper personnellement de ce fameux puits et bien fermer après chaque usage. D'ailleurs même, pourquoi garder un puits alors que vous êtes connecté au réseau de distribution d'eau?
C'est mon mari, wallahi. Quand je lui parle de les supprimer, il avance qu'il a un projet de forage qu'il compte implanter sur le puits.
C'est une bonne chose, mais avant, demande-lui de consulter un spécialiste car il y a des normes à respecter. Mais en attendant, essaie de protéger le puits. Mettre une grille ou une plaque de sécurité par-dessus pour protéger l'ouvrage et par la même occasion les enfants.
En effet, il a déjà pris attache avec eux.
Ah là, c'est bien. Mais tu dois tout de même bien surveiller le petit avant la finalisation du forage.
T'inquiète ma copine, j'y veillerai personnellement.
D'ailleurs, regarde, j'ai même oublié ce qui m'a amené chez toi, tellement je suis emportée par la situation de cet enfant.
Mais c'est normal, non? Et merci d'être... En tout cas, merci d'être là ma chérie.
Retour au studio pour recueillir l'avis de nos invités. Je commence par vous, docteur Memona. Que pensez-vous ou quel commentaire faites-vous de ce que nous venons d'écouter?
Et par rapport à ce que nous venons d'écouter, ceci reflète l'importance qu'occupe l'enfant, la place qu'a l'enfant dans la société. Et en fait, c'est ça. Globalement, donc, on voit que vraiment avoir des enfants, c'est très important dans nos sociétés. C'est pour cela que les femmes qui n'en ont pas, quand même, sont un peu frustrées, tristes et tout. Donc, globalement, c'est ce que j'ai pu retenir de cet enregistrement.
Et vous, Monsieur Ibrahim, en tant que sociologue, quel commentaire faites-vous de ce que nous venons d'écouter, surtout par rapport à l'importance des enfants, mais aussi au fait que dans nos sociétés ou bien dans nos maisons, il y a toujours des maisons qui comportent des puits.
Je pense que l'enfant, au regard de son caractère, au regard de sa fragilité sur le plan physique, c'est un être qui a besoin de protection. Et la première protection de l'enfant, c'est à la maison. D'abord, cet enfant, c'est un bébé. Donc, sa première protection, c'est sa maman. C'est un enfant qui reste encore dans les jupons de sa maman. Dans d'autres sites ailleurs, on dit que l'enfant est un cadeau de Dieu. Et pour parler comme un bon musulman, je dirais que ce n'est pas l'être en soi, ce n'est pas lui qui se donne à un enfant. L'enfant, il dit que la plupart des témoignages que nous venons d'écouter ont pris en compte le côté religieux. C'est une volonté divine.
Oui.
Donc, l'enfant, il doit protection et assistance de la part de sa maman. Parce que si cet enfant était tombé dans le puits, il serait très difficile qu'on puisse le récupérer. Il va finir par se noyer. Donc, c'est pourquoi les parents, notamment les femmes, elles doivent déployer tous les moyens pour s'occuper de leurs enfants. Parce qu'un enfant, dès que vous l'abandonnez, il suffit tout simplement de quelques minutes pour que quelque chose de très scandaleux puisse se produire. C'est pourquoi l'enfant doit toujours rester attaché à sa maman. Donc, c'est ce que j'ai et à dire par rapport à cette petite présentation sur l'enfant qui a failli tomber dans le puits.
Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Nous sommes au terme de l'émission Espace Femmes de ce soir qui traite sur le thème « Les femmes face à l'infertilité, quelles sont les solutions ?» Vous avez retenu avec vous l'avis du docteur et aussi du sociologue sur les bases, comment est-ce qu'on doit traiter les femmes qui souffrent d'infertilité ou de stérilité. Et le médecin a aussi expliqué l'importance de se faire traiter, la sensibilisation, aller dans les centres de santé et souvent aussi d'arrêter de stigmatiser les femmes par rapport au fait qu'elles sont les seules responsables du problème. Nous vous remercions, chers invités, sans qui ce forum n'aurait pas été possible. Nous étions avec Madame Maimouna Yahya, qui est gynécologue. Nous avons aussi le sociologue Hamadou Bagna Ibrahim. Merci vraiment à vous. Merci à vous aussi qui nous suivez à travers nos 52 radios partenaires dans toutes les régions du Niger et cette télévision dont 6 à Niamey et 1 à Zinder. Merci et au revoir.